De votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Jusqu'ici, la lecture. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que ta grâce, en assistance de l'Esprit Saint, fait que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Nous, des cœurs dociles, des cœurs désireux de nous soumettre à ta parole, et te prions que tu fasses éclater ta gloire dans nos vies, que tu ramènes dans ta bergerie ceux qui ne le sont pas encore, et que tu fortifies, Seigneur, ceux qui sont à toi pour la gloire de ton nom. Amen. Je ne sais pas si vous avez des choses qui vous sont précieuses. Peut-être vous avez des choses qui vous sont précieuses. Dans la vie, on détermine certaines choses comme précieuses et puis d'autres pas précieuses. Par exemple, l'or, l'argent sont des choses que l'on considère comme des métaux, on appelle ça les métaux précieux, n'est-ce pas? Et puis, il y a des choses qui sont précieuses pour une personne, et puis pas pour d'autres. Si vous avez le vase de votre arrière-grand-mère à la maison, et puis, etc., que ça a été transmis de génération en génération, pour vous, c'est quelque chose de précieux peut-être, mais pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas de valeur. Pour vous, c'est une valeur affective, donc c'est précieux de par l'affection que vous attachez à votre famille, mais pour d'autres personnes, ça n'est pas forcément quelque chose de précieux. Parfois, on détermine ce qui est précieux aussi par la rareté de la chose. Quelque chose qui est rare devient forcément quelque chose qui est souvent précieux parce que c'est coûteux, ou on définit le caractère précieux d'une chose par le temps qu'il faut pour arriver à cette chose. J'ai visité une fois, quand on était dans le sud-est de la France, à Grasse. Vous savez, là, il y a les parfumeries de Grasse, donc il y a tous les champs de fleurs, et on a visité une usine de fabrication de parfums. Et c'était impressionnant de voir le temps qu'il faut pour passer de la fleur au nectar, à la substance, à l'huile que l'on va extraire de la fleur. Il faut des heures et des heures. Et je ne me rappelle plus combien cette dame nous avait dit. Je crois que c'était un litre d'extrait, ça coûtait 35 000 euros, quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous achetez des petites bouteilles d'eau de parfum aussi chères, mesdames surtout peut-être. Mais en tout cas, on voit le caractère précieux, on va dire ici, la valeur de quelque chose par le temps parfois qu'il faut pour arriver à cette chose. Mais tout ça parce que la Bible nous parle de choses aussi précieuses, et particulièrement dans le passage que nous avons lu, on l'a déjà dit ce matin. Il est présenté le sacrifice de Christ comme quelque chose de précieux, le sang précieux de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi au caractère précieux du sang de l'agneau, du sang de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que cela est précieux. Bien sûr, lorsque la Bible parle du sang, il ne parle pas du liquide que l'on va recueillir dans un bol et puis en disant que cela est précieux. Quand la Bible parle du sang de l'agneau, bien sûr, il est question du sacrifice, hein, c'est-à-dire de la mort, de la résurrection, de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas précieux au point que si vous touchez le sang, vous serez sauvés. Les Romains, quelqu'un faisait remarquer que les Romains qui ont crucifié Jésus ont dû être éclaboussés par son sang. Et ce n'est pas pour cela qu'ils étaient sauvés. Donc ici, quand il est question du sang, il est question bien sûr du sacrifice, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais en quoi est-ce que le sang de Christ est-il précieux? Donc le titre de notre message ce matin, c'est le précieux sang de Christ. Il est précieux premièrement, je crois qu'on pourrait voir ça dans le passage, donc c'est surtout le verset 18 et 19 qui nous intéresse, je vais le relire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc le sang de Christ est précieux, on pourrait dire, il est précieux par son efficacité. Il est précieux par son efficacité. L'apôtre Pierre dit ici, vous savez, et les personne à qui il écrivait savait ces choses, hein. Dit, vous savez que ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or ou par quelque chose de périssable que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, mais par le précieux sang de Christ. Donc, le sang de Christ est précieux parce qu'il est efficace pour délivrer du péché. Hein, il rappelle donc cela aux chrétiens, l'objet, ils ont été l'objet d'une rédemption de la part de Dieu. Ils ont été donc rachetés, non avec de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Alors pour nous, peut-être quand on parle de racheter, ça ne nous dit pas grand-chose. Ou que, comme disait quelqu'un, c'est un terme purement théologique. On parle de rédemption, de rachat. Mais pour les lecteurs du premier siècle, eh bien, ça avait un sens particulier parce que là, il y avait une grande quantité d'esclaves, hein, sous l'Empire romain. Et certainement beaucoup de ces croyants, souvent, étaient des esclaves qui s'étaient convertis. Et donc, à cette époque, l'Empire romain comptait beaucoup, beaucoup d'esclaves. Quelqu'un a estimé que c'était peut-être à peu près 50 millions d'esclaves. Et les gens étaient esclaves. Soit parce que voilà leur contrée avait été colonisée par les Romains, ou soit parce qu'ils s'étaient aussi endettés, donc ils se vendaient comme esclaves, etc. Et pour se libérer, il fallait une grosse quantité d'argent. Alors, si on était capable de rassembler suffisamment d'argent et puis de donner ça au maître, on pouvait racheter sa liberté. Mais c'était pas souvent le cas. Et il arrivait parfois que, le maître vende un esclave à quelqu'un d'autre. Cet esclave devenait la propriété de quelqu'un d'autre. Et cette personne qui avait acheté l'esclave pouvait lui rendre sa liberté. On pourrait dire qu'il a racheté donc l'esclave. Le rachat, racheter donc signifiait libérer, en général, au moyen d'une rançon, d'un prix qui a été payé. Et c'est ce que l'apôtre Pierre souligne ici. Il dit, n'oubliez pas que vous avez été rachetés. Donc de manière indirecte, il dit, vous étiez esclaves et vous avez été rachetés. Et ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or. On n'a pas rassemblé une quantité d'argent suffisante pour que vous puissiez être libérés. L'esclavage dans lequel vous étiez nécessite plus que de l'argent, de l'or ou une denrée périssable. Il dit, vous avez été racheté par le précieux sang de Christ. Parce que votre problème fondamental est celui du péché, de l'esclavage dans lequel vous trouviez. Donc Pierre établit bien sûr ici un parallèle spirituel, on pourrait dire, hein, en faisant prendre conscience à ses lecteurs de l'esclavage du péché dans lequel l'homme sans Christ demeure. Et il dit que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre. Ça veut dire ici une vie sans but, sans réel succès, sans valeur, une vie vide. Et c'est ainsi que la Bible décrit la vie de ceux qui sont sans Christ. C'est une manière de vivre que, il dit, vous avez hérité de vos parents, hein. Sans faire aucun effort, hein, de père en fils, hein. Quand on n'est pas à Christ, eh bien, on mène cette vie-là, une vie vide, une vie futile, une vie de péché, une vie d'esclave de ses propres sens. Écoutez comment l'apôtre Paul dit cela à Tite. Il dit, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Et cela, c'est ce que l'on hérite de père en fils, hein. C'est ce type de vie, ce type de comportement, ce type de pensée, ce type d'attitude. Personne n'est bon par nature. Un peu plus loin, dans la deuxième épître de Pierre, il dit, au chapitre 2, il dit qu'il y a des gens qui ont des discours enflés de vanité, ils amorcent les convoitises de la chair par les dérèglements. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et c'est ainsi que la Bible décrit tous ceux qui ne sont pas en Christ, des esclaves de la corruption, des gens qui mènent une vie vaine, vide, sans Dieu, sans espoir, sans but réel, sans espérance. Et aucun argent, aucun or ne peut sortir quiconque de cette situation-là. Je me souviens avoir discuté avec quelqu'un, un collègue, je pense, c'était une fois, et on parlait de toutes les tragédies, parfois le ça peut être le terrorisme ou autre qu'il y avait dans le monde, et il m'a dit, mais si les gens étaient éduqués, hein, ils ne seraient pas ainsi, ils iraient beaucoup mieux. L'éducation, si on éduque les gens, on les instruit, eh bien ils ne seront pas ainsi. Tout ce que ça va changer, c'est que vous aurez un insensé instruit, un désobéissant instruit, un égaré instruit, un asservi instruit. Mais ça ne changera pas fondamentalement cette vie vaine qui s'hérite de père en fils. Seul le sang de Christ peut délivrer de cette vie vide. Et le psalmiste dit que personne ne peut se racheter l'un l'autre. Psaume 49, versets 8 et 9, il dit: ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. On ne peut pas racheter soi-même sa propre âme, se délivrer de cette situation de péché dans laquelle on se trouve. Jésus disait, que donnera un homme en échange de son âme? Rien, ça veut dire qu'il ne peut absolument rien donner. Et chers frères et sœurs, chers amis, le sang de Christ est précieux dans ce sens qu'il délivre parfaitement de cette vie vaine, qu'il rachète de cette vie vaine. C'est ce que l'apôtre Pierre dit ici. Vous avez été rachetés, non avec de l'or, avec des choses périssables ou avec de l'argent, mais par le précieux sang de l'agneau, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Rien, absolument rien, ne peut racheter l'âme sinon le sang précieux de Jésus. Je crois qu'il y a un cantique qui dit ça, hein. Rien ne peut sauver mon âme, sinon rien que le sang de Jésus. Et les sacrifices de l'ancienne alliance n'étaient pas efficaces pour ôter les péchés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le rappelle, il dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Ce qu'a pu faire seulement le sacrifice de Christ, le sang de Christ. Il est efficace, il est précieux, donc, parce qu'il est efficace. Efficace pour délivrer du péché, efficace pour préserver de la destruction, de la colère de Dieu, la Bible dit. Il dit, à plus forte raison, maintenant, Romains 5, verset 9, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc le sang de Christ est suffisant pour nous préserver et efficace pour préserver de la colère de Dieu. Et en cela, il est précieux. En cela, il est précieux. Et on a une merveilleuse illustration de cette chose, de cette vérité en Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, c'est le chapitre de la délivrance, n'est-ce pas, de l'Exode, de la sortie du peuple d'Égypte. On arrive en Exode chapitre 12 entre la 9e et la 10e plaie. Et entre la 9e plaie et la 10e plaie, Dieu dit à Moïse, maintenant Pharaon va vous laisser aller parce que maintenant je vais frapper les premiers-nés. Mais regardez comment il dit cela ici. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Et nous allons lire c'est difficile de ne pas tout lire, mais je lis au début de versets 1 et 2. Déjà, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il va se passer quelque chose de particulier ici, qui va changer le calendrier, la manière de compter des Israélites ici. Il dit, ce sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Et puis, je saute jusqu'au verset 12, il dit, « Cette nuit-là, Dieu dit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. » Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ça, c'est l'illustration de l'efficacité, on pourrait dire, du sang de l'agneau. C'est le type ici, hein, d'accord ? Là, c'est un agneau, un animal, mais on voit bien que cela préfigure le sacrifice de Christ à venir ici. Et ce qui est important de souligner ici, c'est ce qui a protégé les enfants d'Israël. C'est pas leur détermination, c'est pas l'intensité avec laquelle ils ont cru à ce que Dieu a dit. Le texte ne dit pas « quand je verrai l'intensité de votre foi, quand je verrai la disposition de votre cœur, je passerai outre ». Non, Dieu dit « quand je verrai le sang ». Il faut un substitut, il faut un sacrifice. Et Dieu veut voir le sacrifice. Quand je verrai le sang, je passerai outre. N'importe quel Israélite sorti dehors à ce moment-là aurait péri. Il fallait être sous le sang. Quand Dieu passe, il regarde le sang et il dit, je passe outre ici. Et ainsi, on pourrait dire aussi, on a l'image de l'efficacité du sang maintenant de Christ pour nous préserver de la colère de Dieu. Lorsque Dieu frappera dans son jugement dernier, il regardera, cherchera à voir quoi ? Le sang de Christ. Sommes-nous sous le sang de Christ ou pas ? Et si on est au bénéfice du sang de Christ, du sacrifice, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, si ces choses ont été apposées, on pourrait dire, sur les linteaux et les poteaux de notre vie, eh bien, Dieu dit, je passerai outre. Donc c'est en vertu du sang que Dieu a préservé ce peuple. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'efficacité du sang de Christ, une efficacité purificatrice. L'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais à un moment, il parle aussi de ce sang de Christ qui nous purifie de toute iniquité. On a lu Hébreux 9, verset 14, où il est dit que le sang de Christ peut même purifier jusqu'à notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Et c'est important de considérer aussi cela. Apocalypse 5, verset 9, on voit le caractère universel de cette efficacité, parce qu'il dit, tu as racheté par ton sang, pour Dieu, des peuples de toute tribu, de toute race, de toute langue, etc. Et puis, on peut noter par ailleurs aussi l'efficacité de ce sang pour accéder au Père. Hébreux 10, 19 dit, « Ainsi donc, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire au travers de sa chair de sang, sacrifice qui a été accompli par le sang de Christ, au moyen du sang de Christ. Nous pouvons accéder, le croyant, celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ, celui qui est racheté par Christ, peut accéder au Père. Et puis, on voit même l'efficacité du sang de l'agneau, il est comme cela, pour vaincre l'ennemi. Apocalypse 12, verset 10 dit, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu nuit et jour. Ils l'ont vaincu à cause de quoi ? À cause de leur résistance, à cause de leur connaissance, à cause de leur capacité. Écoutez ce que le texte dit. Ils l'ont vaincu, Apocalypse 12, verset 11, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le sens ici, c'est sur le fondement même du sang de l'agneau, du sacrifice de Jésus-Christ, ils ont été vainqueurs. Donc tout ce que nous devons saisir ici, c'est que on n'est rien, on n'a rien hors du sang de Jésus-Christ, du sacrifice de Jésus-Christ. Il est précieux en ce sens qu'il est efficace pour sauver, pour délivrer, pour préserver. Et il a encore, on pourrait voir d'autres choses justifiées par le sang de Christ, pour nous justifier. Il y a beaucoup de choses que l'Écriture souligne pour nous montrer l'efficacité du sang de Jésus-Christ. J'ai lu cela dans un magazine qui s'appelle Promesse. Il est raconté qu'un vieux serviteur de Dieu était sur son lit de mort toute sa vie et il avait été fidèle au Seigneur. Il avait servi le Seigneur avec zèle. Et dans la contrée où il avait travaillé, tous l'estimaient et rendaient de lui un bon témoignage. Et une voisine qui n'était pas chrétienne, mais qui avait de l'affection pour cette personne, vient lui rendre visite et puis elle lui dit, « Oh monsieur, vous qui avez été si fidèle et qui avez fait tant de bien durant votre vie, vous avez bien mérité le paradis. » Et le vieillard, il a rassemblé ses forces et il a dit, « Apportez-moi ma Bible et mettez le doigt sur ce verset. Le sang de son Fils, Jésus-Christ, me purifie de tout péché. Voilà mon unique passeport pour le ciel. Le sang de l'agneau. » Ce ne sera pas ce qu'on aura fait. Ce sera pas notre œuvre, ce sera pas parce qu'on aura chanté, on aura prêché, on aura distribué, on aura quoi que ce soit. On est sauvé uniquement sur la base du sang versé, du sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il est précieux. C'est l'unique moyen, comme a dit cet homme, l'unique passeport pour le ciel. Deuxièmement, je voudrais souligner très rapidement, brièvement, que le sang de Christ est précieux par la nature même de l'agneau, on pourrait dire. L'apôtre Pierre dit, vous avez été rachetés par le précieux sang
Point. Il dit pas non, il dit pas cela. Il dit par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Dans l'Ancien Testament, il fallait un agneau sans défaut, sans tâche, que l'on mettait à part. On a lu tout à l'heure, hein, il fallait le mettre à part pendant le dixième jour, quatre jours. Et puis, après, il pouvait être immolé. Mais Christ est absolument, lui, parfait. Sans défaut, dit l'apôtre Pierre ici, et sans tâche. Il a vécu une vie sans péché. Lui-même a pu dire, lequel de vous me convaincra de péché? Et personne n'a osé lever le doigt. Hein? Faites l'expérience. Dites, lequel de vous me convaincra de péché? Vous allez voir le nombre de doigts qui se lèvent, hein, dans votre propre famille, dans notre propre famille. Hein? Alors, je ne pose pas cette question. Donc... Mais Christ a pu dire, lui, lequel de vous me convaincra de péché? Personne, personne n'a osé lever le doigt parce qu'il a été sans péché. La Bible le souligne. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Et Hébreux 7, 26 dit, il convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Et donc ce n'est pas le sang d'un animal dont il s'agit ici, mais c'est le sang du Fils de Dieu. Et en cela, il est précieux. L'apôtre Jean dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils. Hein, il y a quelque chose qu'on doit... Ce n'est pas le sang de n'importe qui, ce n'est pas le sang d'un homme. C'est le sang Dieu incarné, le Fils de Dieu qui a vécu une vie parfaite, qui a préexisté éternellement. Donc ce sang est précieux car il est le sang du Fils unique venu du Père. Il est précieux parce que ce sang est pour Dieu aussi, lui-même. Tout le sang versé dans l'Ancien Testament pointait uniquement vers ce sang-là, on pourrait dire. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament étaient pour pointer vers ce sacrifice-là. Le sacrifice de Christ était le sacrifice ultime qui était en vue dans tout ce que nous avons lu dans l'Exode et puis dans tout le système sacrificiel qui a été institué après avec Moïse. Donc précieux par la nature de l'agneau. C'est l'agneau de Dieu, avait dit Jean-Baptiste, qui ôte le péché du monde. Ça n'est pas un animal sans défaut et sans tache. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis troisièmement, je voudrais souligner que ce sang de l'agneau, ce sang de Christ est précieux parce qu'il était prévu, il a été prévu et pourvu par Dieu lui-même. L'apôtre Pierre dit, vous avez été sauvés, rachetés, non par les choses périssables, l'or ou de l'argent, mais par le précieux sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Le sacrifice de Christ n'a pas été un plan mis au point à la dernière minute. Ça nous arrive des fois de faire des choses et puis finalement on est surpris par les événements, les circonstances et vite, vite on essaie de rafistoler quelque chose pour pouvoir pallier à ce changement de circonstances. Mais il n'en est pas ainsi concernant le sacrifice de Christ. La Bible dit ici qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu n'a pas été pris de court par le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden et puis il a vite monté un plan. Pas du tout. Avant même la création du monde, il l'avait déjà prédestiné, prévu et pourvu aussi son Fils comme victime expiatoire. Et la Bible insiste vraiment sur cette dimension, on pourrait dire, prévue du plan, du plan de Dieu. Elle parle de dessein de Dieu. Et nous voyons ici que le sang répandu de Christ, sa mort expiatoire, a été planifié. Et en ce sens, c'est précieux. C'est pas quelque chose vite fait là. Non, c'est quelque chose qui a été prémédité, prédéterminé par Dieu lui-même avant que le premier pécheur ne soit même venu à l'existence. Voyez cela, c'est important de souligner cela. Le livre des Actes nous dit, cet homme livré, dans sa prédication, Pierre dit cela, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Il parle de Jésus-Christ. Il dit, c'est un homme qui a été livré, mais il a été livré pas parce que, oui, parce que les hommes, ils ont fomenté des choses, mais il dit, mais tout cela, c'était le plan arrêté de Dieu depuis les temps passés, arrêté selon la préscience de Dieu. Il dit, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça, c'est dans Acte 20, Acte 2, verset 23. Et au verset 27, on lit ceci. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est important de souligner cela. Prédestiné avant la fondation du monde. C'est l'agneau de Dieu, le sang de Christ, précieux parce que il a été pourvu par Dieu lui-même et prévu par Dieu lui-même. En Genèse, chapitre 22, versets 7 et 8, vous vous rappelez lorsque Abraham s'apprête, il va vers le mont Morija, et puis Dieu lui a demandé de sacrifier son fils, son unique. Alors, celui qu'il aimait le plus. Et c'était son unique dans ce sens, hein, parce qu'il avait déjà eu Ismaël auparavant, d'accord ? Et donc, si vous voulez, dans un certain sens, Isaac n'était pas le seul fils, mais il était le fils unique dans le fait que c'était celui que le fils de la promesse, et c'est celui qu'Abraham aimait par-dessus tout. Et Dieu lui demande de l'offrir. Abraham va et son fils lui dit, mon père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et vous vous souvenez de la réponse d'Abraham? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et à ce moment-là, Dieu avait pourvu un bélier qui était là, pris dans le branchage. Mais ce qui est dit ici, c'est que Dieu va pourvoir efficacement à l'agneau parfait pour racheter l'homme de ses péchés. Et si vous voulez, quelques temps plus tard, on pourrait dire que Jean-Baptiste répond à la question d'Isaac, parce qu'Isaac dit « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en la personne de Jésus-Christ. » Et en Exode 12 que nous avons lu, on voit que lors de l'institution de la Pâque, qui préfigure bien sûr le sacrifice de Christ, Dieu dit ici, c'est la Pâque de l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qui a décidé de faire quelque chose. Hein. Il dit, je vous lis cela, chapitre 12, verset 11, il dit, quand vous le mangerez, c'est Dieu qui parle, hein, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, prêt à partir, et vous le mangerez à la hâte. Et puis il ajoute, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a pourvu. C'est lui qui l'institue ici. Dieu l'institue au temps qu'il a choisi, par le moyen qu'il a choisi, qu'il a voulu. Et rien n'est laissé ici à l'initiative de l'homme dans la rédemption, dans le rachat du peuple d'Israël. De même, rien n'est laissé à la discrétion, à l'initiative de l'homme dans son propre salut. C'est Dieu qui opère toutes choses. Au temps prévu par Dieu, tout a été fait sous le plein contrôle de Dieu, selon son agenda qu'il avait fixé dès avant la fondation du monde. Donc on pourrait dire que le sang de Christ est précieux en ce sens que c'est l'unique moyen qui a été prévu et pourvu par Dieu dès avant la fondation du monde. Je voudrais terminer en disant ceci, quelques
Conclusion, application pour nous. La méditation du prix payé pour le salut, c'est un puissant motif à la conduite sainte. Ce que Pierre fait ici, le but pour lequel il écrit cela dans 1 Pierre, le passage que nous lisons, c'est pour amener le peuple à vivre une vie sainte. Regardez, on a lu le verset 13 au verset 17, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous a été apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par de l'or, de l'argent que vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, il donne comme motivation, on pourrait dire positive, à une vie sainte, le fait de considérer combien est précieux le sacrifice de Christ, que Christ a accompli à la croix du Calvaire. Quelqu'un a donné l'image suivante. Ici, ça veut dire, ici, il dit, vous ne pouvez pas, en considérant le prix que Christ a payé pour vous racheter de vos péchés, vivre dans vos péchés. Et vivre dans ce pourquoi Christ a donné sa vie pour l'éradiquer. Et quelqu'un donnait cet exemple, il dit, imaginez une femme que son mari vient défendre contre un violeur, par exemple. Et puis, pour sauver cette femme, le mari, il meurt. Et peu de temps après, la femme est amoureuse du violeur. Vous direz, mais ça, c'est un non-sens. Il dit, cet homme qui est toujours... Voilà, il dit, ça n'a pas de sens. Et bien, parfois, on agit comme cela avec Christ. Christ a souffert pour nous sortir de cette vie vaine, vide, sans espoir que nous avions hérité de nos parents. Et parfois, on retombe dans ces choses. Et Pierre dit, non. Il dit, vous serez saints parce que Dieu est saint. Marchez de la sainteté, vivez de la sainteté. Éloignez-vous du péché et de l'iniquité parce qu'il faut vous rappeler que Christ a versé son précieux sang pour vous racheter justement de cette manière de vivre. Alors ne tombez pas dans cette manière de vivre à nouveau. Et l'apôtre Paul disait la même chose, il dit, vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes, car vous avez été racheté à un grand prix, 1 Corinthiens 6, 20, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et puis deuxième chose que je voudrais souligner, après avoir montré que la méditation donc du prix payé pour le salut, c'est un puissant motif à la conduite saine, c'est ce que Pierre fait ici. Deuxièmement, on peut voir que la valeur du sacrifice de Christ doit être maintenue dans nos pensées par une célébration continuelle. Dans le monde, on commémore beaucoup d'événements. Et le but de ces commémorations, c'est non seulement pour ne pas oublier ces événements, mais c'est pour en garder souvent la valeur ou la portée ou les conséquences que ces événements ont amenées. On fête le 14 juillet, on fête l'armistice, on fait plein de choses. Hein, et on commémore des événements importants pour ne pas les oublier et en garder les leçons et en mesurer la valeur. Alors bien sûr, Pierre n'évoque pas cet aspect-là ici dans le texte que nous avons lu, mais l'Écriture le souligne déjà dans la délivrance que Dieu institue pour le peuple d'Israël, dans Exode chapitre 12, il y a cette dimension de souvenir et de célébration. Alors, rapidement, regardez encore en Exode chapitre 12. Et on avait lu au verset 13 que Dieu dit, le sang vous servira de signe sur les maisons et vous serez où vous serez et je verrai le sang et je passerai par-dessus. il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et verset 14, il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et après, il explique un peu les choses. Pendant 7 jours, voilà comment les choses vont se passer. Mais lorsque Moïse rapporte cela au peuple, tournez une page peut-être, il dit au verset 23, il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux, les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. On souligne encore cet aspect commémoratif, on pourrait dire. Vous, quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Il dit, lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. C'est-à-dire, Dieu dit, cette délivrance qui a été opérée, je ne veux pas que vous en perdiez la valeur, le prix. Je ne veux pas que vous oubliez à quel prix vous avez été délivré, racheté. Au prix du sang d'un agneau sans défaut et sans tache pour le peuple d'Israël. Mais pour le croyant, au prix du précieux sang de Jésus-Christ. Il dit, vous allez célébrer cela. Et le peuple a célébré jusqu'à ce que Christ vienne. Lorsque Christ a institué la scène, c'était en pleine célébration de cela, de la Pâque, ici. Et le commandement que Christ nous a laissé, c'est que vous célébrerez le fait que je vous ai sauvé par le précieux sang, par mon précieux sang, en observant ce que nous avons observé ce matin, en célébrant la scène. Et vous le ferez, il dit, jusqu'à ce qu'il revienne ici. Et c'est le commandement que Dieu a donné au peuple d'Israël. Et c'est une désobéissance que de ne pas se soumettre à ce que Dieu a donné à Moïse. Moïse l'a rappelé, il n'a pas oublié cet aspect, il l'a rappelé. Dieu donne même les détails de cette célébration. Comment elle doit être, comment elle doit être faite, comment elle doit être prise. Et pour l'enfant de Dieu, nous aussi, c'est une désobéissance que de ne pas nous soumettre à cette célébration que Dieu a prévue et pourvue pour que nous puissions toujours nous souvenir du caractère précieux du sang qui a été versé pour nous, pour le rachat de nos péchés. Que le Seigneur nous aide donc à mener une vie saine et à mener une vie obéissante en gardant toujours en notre pensée le souvenir du caractère précieux, de la valeur infiniment élevée du prix qui a été payé pour notre rachat. Celui qui oublie cela vit dans la désobéissance et finira par s'éloigner de Dieu. Mais celui qui ne pratique pas les moyens que Dieu a prévus contre l'oubli finira aussi par l'oublier et s'éloigner de Dieu. Vous voyez ce que Dieu dit au peuple? Il dit, dans Exode, il dit, lorsque vos enfants vous demanderont pourquoi faites-vous. C'est-à-dire, vous allez le pratiquer d'une manière telle qu'ils seront obligés de voir l'importance que cela a pour vous, au point qu'ils arrivent à vous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous observez cet usage? Dieu n'a pas prévu qu'ils disent, pourquoi n'observes-tu pas l'usage? Mais pourquoi est-ce que vous observez cet usage? Et ils diront, ce sera le moment de témoigner à leurs enfants, nous avons été
sauvés par le sang d'un agneau à poser sur nos maisons. Lorsque Dieu a frappé de jugement l'Égypte, il a manifesté en même temps sa grâce envers nous, en passant outre à cause du sang de l'agneau. Lorsque nous célébrons la Sainte Cène, c'est un témoignage aussi pour ceux qui regardent, pour ceux qui ne connaissent pas Christ, pour les enfants les plus jeunes, de dire que nous témoignons par là que Dieu nous a fait grâce, qu'il a apposé son sang sur nous et qu'il nous a sauvés de notre vaine manière de vivre. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses et à vivre une vie qui l'honore et qui le glorifie. Prions. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour infini. Et nous te prions que tu nous rendes conscients de la grandeur du sacrifice qui a été accompli. Même si nous ne pouvons pas en mesurer l'étendue, mais que nous puissions savoir et considérer que c'est un grand prix, parce que ta parole le dit, et que nous puissions vivre une vie en conséquence. Donne-nous de ne jamais oublier à quel prix nous avons été rachetés. Donne-nous de ne jamais manquer de t'adorer et te célébrer par les moyens que tu nous as indiqués pour la gloire de ton nom. Amen.